Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, mais également à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Sénégal, Khalifa Sall de nouveau convoqué au tribunal. Le maire de Dakar est accusé de détournement de fonds publics. En République démocratique du Congo, le cardinal Laurent Monsengwo persiste et signe. Il dénonce la répression de marches contre le pouvoir. Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson en tête d'une initiative contre les responsables d'attaques chimiques en Syrie. Dans nos dossiers du jour, la mort de la légende sud-africaine du jazz, Hugues Masekela. Nous reviendrons sur sa longue carrière et son engagement contre l'apartheid. Et bien sûr, ne ratez pas la Minute Éco avec l'ouverture du Davos et les sports avec les derniers résultats du CHAN. Mais tout d'abord, le journal. Et à la une de l'actualité du jour, la reprise ce matin du procès de Khalifa Sall, le maire de Dakar, est poursuivi pour détournement de fonds publics portant sur près de 2 milliards de francs CFA. Le procès devrait être suspendu à 18h pour reprendre demain matin. Il devait s'étendre sur plusieurs jours. Des précisions avec Sedina Abaguet.
L'audience de Khalifa Sall et de ses co-accusés a démarré ce matin sans une audition sur le fond du dossier. En effet, les débats portent aujourd'hui sur la recevabilité de la constitution de l'État du Sénégal et de la ville de Dakar comme partie civile. L'État estime avoir subi un préjudice alors que la mairie de Dakar affirme qu'elle est la seule à pouvoir prétendre à ce statut. Auparavant, le procès a été ouvert par l'appel des témoins de la défense parmi lesquels figurent d'éminentes personnalités de la République, comme le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, le ministre du Budget, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, entre autres. En attendant les débats sur le fond, le président du tribunal devra dans un premier temps statuer sur les problèmes de forme pour que le procès puisse réellement débuter. Habillé d'un grand boubou traditionnel de couleur blanche, le maire de Dakar est apparu en bonne mine devant ses centaines de militants qui ont très tôt envoyé la salle 4 du tribunal de Dakar pour le soutenir. À Dakar, Sedina Abaguey pour VOA Afrique.
Restons inébranlables, a lancé aujourd'hui l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo. Il a dénoncé les dernières répressions de marche par des forces de l'ordre. Le point avec Dili Diko.
Nous voulons que règne la force de la loi et non la loi de la force, a proclamé le cardinal Laurent Monsengwo après les violences de dimanche. Sommes-nous devenus une prison à ciel ouvert ? Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants, des vieux scandant des cantiques religieux, munis de bibles, chapelets et crucifixes ? S'est-il indigné. Il a dénoncé des policiers et des militaires plus armés que s'ils n'étaient sur un champ de bataille. « Nous irons jusqu'au bout », ont affirmé mardi les organisateurs des marches dans un communiqué demandant au peuple de Dieu de rester mobilisé pour répondre à son prochain appel. Au moins 6 personnes, selon le bilan provisoire des Nations Unies, ont été tuées à Kinshasa lors des marches organisées à l'appel d'un comité laïque de coordination proche de l'Église catholique. Les autorités parlent de 2 morts. Les intellectuels catholiques demandent au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat. Son deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018.
Et suite à cette manifestation, plusieurs réactions. La ministre congolaise des droits humains a souhaité que les violences policières soient punies dans un entretien télévisé, tandis qu'un porte-parole du gouvernement a salué le comportement professionnel de la police. 10 militants de Lucha, un mouvement pro-démocratie, ont été acquittés aujourd'hui par un tribunal de Kananga dans le centre du pays où ils étaient jugés pour avoir manifesté contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Au Nigeria, 6 agriculteurs ont été tués le week-end dernier par des éleveurs nomades dans le nord-est du pays, faisant suite à des dizaines de massacres intercommunautaires semblables ces dernières semaines. En novembre, 30 éleveurs peuls avaient été massacrés par des agriculteurs chrétiens de l'ethnie Bashama. Et par ailleurs, l'ex-président Olusegun Obasanjo a demandé à Muhammadu Buhari de se reposer et de ne pas se représenter pour un second mandat en 2019. tout en proposant la création d'un nouveau mouvement politique. Il a quitté le pouvoir il y a déjà 10 ans, mais reste une figure incontournable dans le pays. Le président ougandais Yoweri Museveni a salué la franchise des propos de son homologue américain Donald Trump, allant à contre-courant de l'indignation exprimée par de nombreux dirigeants en Afrique et au-delà. Je ne sais pas s'il a été cité de manière incorrecte ou pas, mais il parle des faiblesses de l'Afrique avec franchise, a déclaré Museveni devant l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est réunie à Kampala. En Égypte, l'ex-chef d'état-major de l'armée, Sami Anan, risque d'être écarté de la course à la présidence après avoir été accusé d'avoir falsifié des documents pour pouvoir se présenter. Le général à la retraite a annoncé sa candidature quelques heures après la confirmation par l'actuel président Abdel Fattah el-Sissi de sa volonté de briguer un second mandat le 26 mars. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental a invité les chefs de la diplomatie marocaine, algérienne et mauritanienne et le responsable du front Polisario à Berlin pour des discussions sur cette région disputée. Pour rappel, le Sahara occidental est le seul territoire du continent africain dont le statut post-colonial n'a pas été réglé. Le Maroc en contrôle 80%, le front Polisario 20%, séparé par un mur et une zone tampon contrôlée par les casques bleus de l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
30 pays ont conclu un partenariat ce mardi à Paris visant à poursuivre les responsables d'attaques chimiques en Syrie. Après cette réunion, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a consulté les principaux alliés des États-Unis sur la stratégie américaine. Nathalie Barge.
Pendant la rencontre, la France a gelé les avoirs de 25 entités et responsables d'entreprises syriens, français, libanais et chinois soupçonnés d'alimenter le programme syrien d'armes chimiques. Après cette réunion, Rex Tillerson a donné un aperçu de la stratégie américaine sur la Syrie à ses homologues de la Grande-Bretagne, France, Allemagne, Jordanie et Arabie Saoudite. Récemment, il a fait état d'une présence militaire américaine illimitée en Syrie dans le cadre d'une stratégie plus vaste visant à empêcher la résurgence de Daesh et à ouvrir la voie au départ éventuel du président Bachar al-Assad. Les négociations intersyriennes sous l'égide de l'ONU piétinent depuis des mois. De nouveaux pourparlers sont prévus jeudi et vendredi à Vienne. La Russie a aussi lancé une initiative de paix associant l'Iran et la Turquie, qui devrait réunir le pouvoir et les rebelles dans un congrès du dialogue national syrien le 30 janvier à Sotchi.
Et ici aux États-Unis, un fort séisme de magnitude 7,9 a été signalé dans le golfe de l'Alaska, ce qui a provoqué en pleine nuit des alertes et vigilances au tsunami sur une longue frange de la côte ouest canadienne et américaine. Elles ont finalement été levées par les autorités avant l'aube. Jacques Aristide.
Le tremblement de terre s'est produit aux petites heures du matin, 278 km au sud de l'île Kodiak, la plus vaste de l'Alaska. L'alerte au tsunami concernait au départ l'Alaska et l'État de Colombie-Britannique au Canada, où les habitants ont été appelés à se mettre à l'abri. L'ensemble de la côte ouest des États-Unis, soit l'État de Washington, l'Oregon et la Californie, mais aussi Hawaï dans le Pacifique, avaient en outre été placés en état de vigilance. La mesure a ensuite été levée à Hawaï, en Californie, en Oregon et dans l'État de Washington, tout comme en Colombie-Britannique. En Alaska, l'alerte a été maintenue jusqu'à 3 heures du matin. Le centre d'alerte du Pacifique a prévenu que sur la base des données disponibles, ce tremblement de terre aurait pu provoquer un tsunami destructeur. L'agence météorologique japonaise a dit surveiller la situation mais n'a pas émis d'alerte au tsunami. En 1964, un séisme de magnitude 9,2 près du détroit de Prince William en Alaska, suivi d'un tsunami, avait fait 125 morts.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle tout de suite avec Eric Maniarakiza.
Davos abrite le Forum économique mondial. Le premier ministre indien Narendra Modi a défendu la mondialisation et le libre-échange. Il a critiqué le protectionnisme cher au président américain Donald Trump et a promis de dérouler le tapis rouge aux investissements étrangers en Inde. Le nombre de milliardaires dans le monde en 2017 a connu sa plus forte hausse de l'histoire, à raison d'un milliardaire tous les 2 jours. Parallèlement, la précarité ne cesse de croître chez les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, la pauvreté touche 2/3 de la main-d'œuvre, d'après l'OIT. La plupart des avions d'Air Algérie ont repris leur vol après une journée de grève de lundi qui a cloué au sol l'essentiel de la flotte de la compagnie nationale algérienne. Les stewards et hôtesses ont annoncé un nouveau préavis de grève pour réclamer notamment l'augmentation des salaires promis en 2017.
Et c'est l'heure de la page sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa.
CHAN 2018 oblige, les derniers matchs de poule du groupe C sont en cours.
Et oui, Raissa, et c'est les Équato-Guinéens qui viennent d'ouvrir le score face aux Super Eagles du Nigeria. 1-0 donc pour la Guinée équatoriale, mais toujours 0-0 entre le Rwanda et la Libye. Les qualifiés pour l'heure, pour les quarts de finale ne changent pas. C'est toujours le Rwanda et la Libye qui ont 4 points bien sûr pour le Nigeria et 5 points pour le Rwanda qui reste qualifié pour le moment pour les quarts de finale.
Et le point sur les derniers matchs du groupe B hier, Yacouba?
À Casablanca, la finale du groupe entre les deux équipes déjà qualifiées, la Namibie et la Zambie, a accouché d'un match nul 1-1. L'équipe Polo Polo termine donc premier de ce groupe B et affronteront le Soudan en quart de finale. La Namibie fera face au pays organisateur, le Maroc.
Et à Marrakech, les éléphants de la Côte d'Ivoire affrontaient l'Ouganda dans la même situation.
Un match sans enjeu, Raissa, si ce n'est retrouver l'honneur et bien. Les éléphants et Crane ont fait 0-0. À défaut d'une victoire, Ibrahim Camara est satisfait du visage montré par les Ivoiriens.
Ce qu'on avait, c'était donner de l'espoir aux Ivoiriens. Donc on a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour marquer. Malheureusement, on a pêché dans la finition. Je pense qu'on a progressé par rapport au match de la Zambie. Et à mon sens, si on continue de travailler comme on l'a fait, parce qu'on sent que plus la compétition avance, qu'on est resté un peu plus longtemps ensemble, commençait à sortir la tête. Mais malheureusement, voilà, au bout de 3 matchs, il faut faire les valises. Je pense qu'on peut regarder l'horizon avec un petit peu d'espoir quand même.
C'était donc Ibrahim Camara, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. En face, son homologue pour les Ougandais savoure aussi ne pas avoir encaissé une 3e défaite dans ce CHAN. On écoute Sébastien Desarbres.
Nous, l'important, c'était l'objectif du match. L'objectif du match, c'est de faire un bon match et de terminer devant la Côte d'Ivoire. C'était ça l'important, puisqu'on ne pouvait plus terminer ni premier ni deuxième du groupe. Donc, il y avait une 3e place à prendre. Et il fallait à la fois que on montre encore de bonnes choses dans le jeu collectif. On aurait préféré, c'est sûr, gagner le match. On joue toujours pour le gagner. Tomber contre une bonne équipe de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a fait largement jeu égal avec cette équipe. Et on aurait préféré gagner. Mais on n'a pas pu concrétiser nos occasions.
Sébastien Desabre, sélectionneur de l'Ouganda.
Demain, le Burkina Faso. Votre pays, Yacouba, est en ballottage défavorable pour la qualification.
Malheureusement, je vais dire, Aïssa, le Burkina doit battre le Cameroun et espérer que l'Angola et le Congo-Brazzaville jouent le jeu, puisqu'un match nul entre ces deux équipes qualifierait les Diables Rouges et les Palancas Negras. Amine Birouk nous fait le point depuis Tanger.
Le Burkina Faso abat ses dernières cartes ce mercredi à Tanger. En effet, les étalons possèdent une infime chance de se qualifier pour les quarts de finale du CHAN 2018. Pour atteindre cet objectif, les hommes d'Amara Traoré, dit saboteur, devront battre le Cameroun par 2-1 et espérer un succès du Congo devant l'Angola Agadir. Autant dire que les Burkinabés n'ont pas leur destin en main. Ils devront d'ailleurs proposer une production offensive un peu plus convaincante que lors de leur nul devant la Palancas Negras ou leur défaite 2-0 face au Diable Rouge. Leur adversaire, le Cameroun, n'a qu'une seule visée, quitter le CHAN sur une bonne note. Il est vrai que les Lions indomptables ont manqué de réussite lors de leurs 2 matchs devant le Congo et l'Angola. Un signe indien qu'il faudra enfin chasser pour rentrer au pays la tête haute. Depuis Tanger au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Vous l'auriez vous-même rectifié. Drissa Malo Traoré dit saboteur pour ce qui est du nom du coach burkinabé.
Et très rapidement, le Maroc défend ses chances pour la Coupe du Monde.
Oui, Raïssa, le comité est marocain pour l'organisation de la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Direction le Tchad, où les autorités ont interdit aujourd'hui une marche nationale de la société civile prévue le 25 janvier. Toutefois, le collectif des organisations de la société civile a maintenu ce mouvement, dénonçant une interdiction irrégulière. Ce collectif proteste contre la mauvaise gouvernance, les injustices et les mesures antisociales, dit-il, prises par le gouvernement. Yacouba Ouédraogo a joint l'AIB Tourjouman, membre de la coalition Tournant la page.
Depuis plus de 20 ans, la malgouvernance est entretenue par le régime en place. C'est pour cela que la population ou bien les organisations de la société civile se sont engagées pour dénoncer l'injustice et ériger un système de gouvernance dans ce pays. Il n'est secret pour personne que la mauvaise gestion des ressources, que ce soit pétrolier, de ciment, or, etc., sont confisquées par le pouvoir. L'attribution des marchés publics fait beaucoup de choses dans ce pays. Si seulement que nous allons marcher, c'est parce qu'il y a une augmentation des prix des carburants sans que la population ne soit informée. Et aussi l'augmentation également de l'IRPP.
C'est quoi l'IRPP?
C'est les impôts sur les revenus des personnes physiques. Ça veut dire que les impôts sur les salaires. C'est aussi l'augmentation aussi des frais de communication. Et l'augmentation aussi des barres alimentaires. Et aussi le transport. Quand on augmente déjà les carburants, et automatiquement le transport aussi augmente. De l'autre côté, nous constatons les diminutions des salaires des fonctionnaires.
Le gouvernement a récemment renoncé à diminuer les salaires.
Diminution des salaires que le gouvernement vient de renoncer à cela. C'est les appâtements des salaires. Ça veut dire quoi? L'État a deux choses à faire sur les salaires. Premièrement, d'abattre les salaires. Ça veut dire quoi? Le but en tant que tel que les populations reçoivent, lorsque les travailleurs ont eu comme base, ils doivent diminuer le brut. Et aussi sur cela encore, ils reçoivent encore, ils ont augmenté les impôts. Les impôts qui étaient seulement à 10,5 pour tous les travailleurs, ces impôts ont augmenté de 20 à 30%.
Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a interdit cette marche du 25 janvier. Ne craignez-vous pas la répression de la part des forces de l'ordre?
Sans doute, nous savons notre pays, nous savons dans quelle mentalité ces gens-là réagissent. Certainement, il y aura des répressions, il y aura des arrestations, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que le mot d'ordre de grève est encore toujours maintenu. C'est l'État qui nous fait parvenir par des SMS ou bien soit par des décrets liés à la radio ou à la télé que la marche est interdite. Là où je vous parle, les organisateurs sont en concertation avec le ministre de l'Intérieur dans son bureau.
Les agences de voyage ont observé un mot d'ordre de grève lundi et ont suspendu leur mouvement suite aux négociations avec le ministre des Infrastructures. Les élèves aussi sont entrés dans la danse. Vous, OSC, vous prévoyez une grève ce 25 janvier. Ça va dans tous les sens.
Chacun a ses champs d'action. Les transporteurs, eux, ils luttent seulement que pour l'augmentation des prix des carburants. Mais de notre côté, les organisateurs d'affaires civiles, nous ne luttons pas seulement pour l'augmentation des prix. En ce qui concerne les élèves, il faut comprendre que les élèves ne sont pas entrés dans la danse comme ça. Les élèves, ça fait commencer par l'affaire des étudiants. On les impose de payer 28 000 francs. L'université de Ndiamena est collée au lycée Félix Eboué. C'est de cette manière, quand les étudiants grévaient, les policiers venaient, ils lançaient des gaz et ils sont entrés derrière les élèves dans les établissements. C'est pour cela que ces élèves dénoncent cela. Mais en dénonçant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans d'autres établissements qui ne sont pas touchés pour les perturber. Donc là, ça en est une autre chose.
L'AIB Tourjouman joint Ndiamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
Washington a imposé de nouvelles taxes sur des panneaux solaires importés de Chine et sur les grandes machines à laver fabriquées dans plusieurs pays asiatiques. Le président américain Donald Trump vise à protéger les entreprises américaines et l'emploi. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à New Jersey le professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton, Leonard Wanchukwu.
Il est même possible que malgré les taxes de 30%, ces produits coûtent même moins cher que ceux que les entreprises américaines produisent. Surtout pour le panneau solaire, on devrait encourager plutôt l'importation pour faire la compétition aux entreprises américaines pour qu'ils en produisent à moindre coût, afin qu'il y en ait de plus en plus. Surtout en ce moment où on parle des questions d'environnement, et d'énergie, etc. Le Green Revolution ou bien Green Energy, tout ça, ce n'est pas le bon signal, quoi. C'est une décision politique, ce n'est pas une décision économique. Donc voilà, après le tax code, après la question d'immigration, alors il faut qu'il se présente comme le champion de l'Amérique.
Mais c'est un président qui met en application ce qu'il a promis aux électeurs et il a été élu.
Ce n'est pas une stratégie intelligente. Ce n'est pas très clair si ces électeurs vont vraiment bénéficier de cela. Parce que ces entreprises en question, ces emplois qui seront créés, ne sont pas nécessairement créés dans les petits villages de Pennsylvanie ou d'Indiana. C'est des trucs qui sont faits dans les grandes villes, dans des régions qui sont peut-être démocrates.
Ils prônent le protectionnisme et rejettent la mondialisation.
L'avantage est politique, mais je crois que la mondialisation est là pour rester. En fait, on ne peut pas revenir au 19e siècle. Donc, la question, c'est d'aller par la négociation, par les échanges, pour que cela profite à tout le monde. Et puis, le plus important, c'est que la mondialisation, ça bénéficie d'abord aux États-Unis, parce que ça permet aux États-Unis, par exemple, de créer des marchés en Afrique, de créer des marchés en Asie, de créer des marchés en Amérique latine à des coûts réduits. Maintenant, dans le même temps, on a peur que les gens des pays moins développés ou la Chine puissent intervenir aux États-Unis et faire la compétition à l'interne. Ça n'a pas de sens. Ceux qui ont peur de la mondialisation, ça devrait normalement être les petits pays, quoi. Parce que, bon, ils craignent que les multinationales écrasent leur économie locale et tout le reste. Alors qu'ici, voilà, c'est plutôt le pays qui est censé être le plus grand bénéficiaire de la mondialisation qui est en train de le combattre. C'est tout simplement politique, c'est tout.
Est-ce que vous pensez que cette politique de protectionnisme aura des conséquences néfastes sur les personnes moyennes?
C'est trop tôt pour le dire, parce que ce qui est important, c'est que la rationalité économique finit par s'imposer, quoi. On ne peut pas aussi facilement aller au contre-courant de l'histoire. Donc, je ne sais pas s'il aura un effet à long terme, mais à court terme, ça va être très limité, quoi. C'est les entreprises américaines, peut-être, qui vont être frappées le plus, et les consommateurs.
Leonard Wantukon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'Université de Princeton. Légende sud-africaine du jazz et figure de la lutte contre l'apartheid, le trompettiste et chanteur Hugues Masekela est décédé mardi à 78 ans. Idriss Fall revient sur les moments forts de sa vie.
Masekela a été élevé par sa grand-mère dans la petite ville de Witbank, entourée des mines de charbon.
They always curse and they curse the coal train. The coal train that brought them to Johannesburg.
Dans Stimela, il rend hommage aux travailleurs noirs qui partent en train vers les mines sud-africaines. Hugues Masekela fuit le régime de l'apartheid dans les années 1960 et rentre dans son pays après la libération de Nelson Mandela en 1990. Parmi ses plus grands tubes, Bring Him Back Home, ramenez-le chez lui, en hommage au futur Nobel de la paix qui a passé 27 ans en prison. Après un passage à Londres, il étudie à New York, puis fréquente les Jimi Hendrix, Marvin Gaye, Dizzy Gillespie, Maria Makeba, la chanteuse sud-africaine dont il tombe amoureux. Leur mariage dure 2 ans. Hugues Masekela aime les excès et s'est marié 4 fois. Il se dit accro à l'argent, accro aux drogues, accro à l'amour, accro au sexe et à la musique. En 2016, il remporte le prix de légende de l'année au MTV Africa Music Award et joue pour Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Adolescent, il avait reçu sa première trompette offerte par Trevor Huddleston, un prêtre engagé dans la lutte contre le régime de l'apartheid. La trompette est rythmée par une cloche de vache. Grazing in the grass. Masekela est décédé à Johannesburg, entouré de ses proches, après une courageuse bataille contre un cancer de la prostate.
Et c'est sur cette musique « Grazing in the Grass » de Hugues Masekela qu'on termine le monde aujourd'hui. Lionel Gaïma à la mise en onde, à la console. Rigus, Andreas Rigus, Raissa Gironde à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le groupe État islamique a perdu la grande majorité du territoire qu'il contrôlait en Syrie, de même qu'il a été défait en Irak. Mais alors que la Russie pourrait considérer que la guerre en Syrie est terminée, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires proche-orientales par intérim, David Satterfield, a récemment déclaré devant le Congrès que les États-Unis demeurent déterminés à défaire de manière totale et durable le groupe État islamique et d'autres groupes terroristes en Syrie et dans la région, et à veiller à ce qu'ils ne puissent pas se reconstituer et revenir. Une chose que cette défaite durable exige est un processus politique crédible, mais non un gouvernement choisi par le peuple syrien sans Bachar al-Assad. Ils ont infligé des souffrances et d'innombrables morts au peuple syrien. Ce régime attire la terreur, a déclaré M. Satterfield. Tout en reconnaissant les graves défis à venir, il a déclaré qu'avec le processus de Genève, dirigé par les Nations Unies pour une réforme électorale constitutionnelle crédible, ainsi qu'une transition politique en Syrie, est un objectif potentiellement réalisable. Les progrès vers cet objectif dépendent en partie de la Russie alliée de Bachar al-Assad. Nous aurons besoin que la Russie fasse pression sur le régime pour qu'il se conforme à la résolution 2254 du Conseil de sécurité et participe aux discussions politiques à Genève. Pourquoi la Russie devrait-elle le faire? C'est demandé Satterfield avant de répondre. Parce que, sans un tel engagement, il n'y aura pas d'argent en Syrie pour la reconstruction. Il n'y aura aucune légitimation de la part de la communauté internationale, que ce soit pour la Russie ou pour la Syrie. Le processus politique sous la résolution 2254 est la clé, a déclaré M. Satterfield. C'est la clé pour s'adresser à Assad concernant son départ. C'est la clé pour résoudre la question des forces étrangères et de l'influence iranienne. et nos outils pour faire avancer ce processus, comprenne le déni de la légitimité et d'authenticité à toute revendication de victoire du régime syrien ou de ses partisans à Moscou ou au Téhéran, et la rétention des fonds de reconstruction vitaux pour le régime et les intérêts de Moscou sur le long terme. Les États-Unis, a déclaré le secrétaire d'État adjoint par intérim Sarsfield, sont déterminés à rester en Syrie pour atteindre tous nos objectifs stratégiques, y compris la défaite durable du groupe État islamique, les progrès sur la transition politique syrienne et la diminution de l'influence néfaste de l'Iran. L'évaluation de ces objectifs, a-t-il déclaré, ne sera pas basée sur des calendriers, mais sur l'évaluation des conditions examinées de manière progressive.
C'était un éditorial reflétant le...
Bienvenue.